Bonjour à toutes et à tous. Pour ce nouvel épisode de podcast, j'accueille Soisine Bruno, qui est coach, formatrice et conférencière. Après avoir été chargée de communication dans une grande entreprise industrielle brestoise, Soisine, tu t'es reconvertie il y a 5 ans maintenant. Tu as mené tes deux activités de front avant d'exercer à 100% ton nouveau métier. Avec toi, nous allons parler de ce qui a motivé cette reconversion, mais aussi de raison d'être. On en parle beaucoup pour les entreprises, mais n'est-ce pas aussi une question à se poser pour nous également, les femmes et les hommes? Et pour commencer, bonjour Soisic, merci d'avoir accepté mon invitation. Et si tu peux nous dire un petit peu qui tu es et ce qui a motivé justement ta reconversion il y a quelques années.
Bonjour Marie-Cécile, merci de m'accueillir. Alors qui je suis? Ben, écoute, j'ai 48 ans, c'est ça. Je suis 48 ans, je suis maman de deux enfants. Comment j'ai pu me reconvertir? En fait, je crois que j'ai eu une sorte de moment de bascule un petit peu, hein, j'appelle ça des moments charnières. En 2009, je me suis retrouvée seule, en fait, puisque je me suis séparée du père de mes enfants. Et au même moment, j'avais des problématiques professionnelles, puisque je ne me retrouvais plus trop dans mon boulot et je commençais à sentir qu'il y avait une forme d'épuisement et de lassitude. Et puis, c'est vrai que comme moi, j'ai deux enfants qui se trouvent avec des profils atypiques, ils sont porteurs du syndrome d'Asperger tous les deux. Donc c'est vrai que petit, alors je ne le savais pas encore, mais c'était déjà un petit peu compliqué de les gérer, donc ça demandait énormément d'énergie. Et c'est vrai que j'ai senti en fait cette espèce de baisse énergétique globale qui a fait qu'à un moment donné, je me suis dit « c'est plus possible, je ne peux plus continuer comme ça ». Donc j'ai fait une dépression et suite à ça j'ai commencé en fait à m'intéresser à la PNL. Et quand j'ai découvert la PNL, ça a bouleversé ma vie parce que d'un coup ça m'a ouvert une autre vision de la vie. Ça a complètement rebattu les cartes de ce que je connaissais, de ce que je croyais en fait, ce qu'on appelle les croyances hein, sur la vie. Et là je me suis dit, si tu veux avancer de la bonne manière dans la nouvelle structure finalement familiale et personnelle dans laquelle tu te trouves, il va vraiment falloir que tu avances toi sur toi d'abord. Et donc j'ai entamé moi ce chemin-là en fait pour moi d'abord. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure que je commençais à avancer là-dedans, que je me débarrassais de tout un tas de choses, de tout un tas de schémas, j'ai commencé à prendre conscience que finalement j'étais plus à ma place en fait. Et il a fallu longtemps, hein, et ça a duré des années, parce que pendant ce temps-là, il fallait aussi que moi j'assume mon nouveau statut, avec toutes les problématiques d'une mère célibataire. Jusqu'au moment où je me suis dit, il y a eu une espèce de résonance quand je suis tombée sur une formation en coaching, et là, j'ai senti que ça vibrait à l'intérieur, mais c'était une espèce de... Tu sais, comme si tu avais un aimant à l'intérieur du ventre, et puis un aimant à l'extérieur du ventre là, qui t'attirait. Et puis je me suis dit, vas-y quoi. Et sans me poser trop de questions d'ailleurs sur ce que j'en ferais. Donc j'ai fait d'abord cette formation de coaching, ça c'était en 2015, donc j'ai été certifiée la même année. Puis dans la foulée, je me suis dit, on y est, on continue. Donc je me suis lancée en auto-entreprise et puis j'ai commencé à exercer en parallèle mon activité salariée. Et c'est vrai que pendant longtemps, en fait, j'étais enfermée dans le salariat et j'attendais finalement que mon entreprise réponde à mes besoins, à ce qui m'allait pas. Donc c'est vrai que j'étais beaucoup dans la revendication quand même, beaucoup dans la frustration, dans la satisfaction. Jusqu'au jour où justement, je me suis rendu compte que c'était aussi à moi d'aller m'apporter ce dont j'avais envie, ce dont j'avais besoin. Et c'est là où finalement, au lieu de mettre mon énergie à être dans la lutte, dans la résistance de mon métier, j'ai décidé d'aller mettre cette énergie-là à mon service et donc d'aller me former et puis de commencer à exercer comme coach.
Et justement, tu, dans le cadre de ton activité de coaching, tu t'es rendu compte que tu avais envie d'accompagner, donc comme tu le dis, les personnes, une fois que tu te connaissais aussi mieux toi-même.
Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on fait ce genre de métier, au départ, je crois qu'on n'y va pas forcément pour les bonnes raisons. Je crois qu'au départ, quand on fait ce genre de métier, souvent on y va pour se guérir soi-même. Et c'est vrai qu'on a besoin d'être dans ce cheminement-là. Et puis, il y a une espèce d'idéal peut-être, on parle beaucoup du coaching et puis on idéalise un petit peu le métier. Et finalement, oui, moi c'est vrai que quand j'ai découvert la PNL, moi ça m'a vraiment transformée, mais en revanche j'ai toujours fait en sorte vraiment d'appliquer moi dans ma vie ce que j'apprenais, c'est-à-dire que j'étais pas juste en train de me dire j'apprends des choses et je sais des choses, mais à chaque fois j'essayais vraiment de transformer pour que ça rentre dans la matière, que j'incarne un petit peu tout ça. Et donc c'est vrai que quand on commence à être coach, à un moment donné je me suis dit maintenant je suis coach, donc je vais aider les gens, mais en fait je savais pas non plus forcément qui j'avais envie d'aider quoi. J'avais envie d'aider, mais Et c'est ce grand cheminement, en fait, qu'il faut, que j'ai continué à faire après, c'est-à-dire, mais au fond, quel sens j'ai envie de mettre dans mon métier, et surtout à quoi j'ai envie de contribuer à travers mon métier. Et là, forcément, tu vas puiser dans ton expérience personnelle. Et donc, moi, j'avais... Alors, c'est pour ça que bon, j'ai navigué au début. Je ne savais pas trop. J'avais envie aussi d'aider les mères célibataires. J'avais envie de comment, je me suis dit, bah, je peux peut-être accompagner comment les, pourquoi pas, les enfants. Enfin, bref. Et sauf qu'à un moment donné, je me suis dit que finalement, moi, ce qui résonnait le plus à chaque fois dans tout ça, de finalement, qui était le point commun de mon histoire, c'était à chaque fois de voir des gens qui étaient enfermés dans des situations dans lesquelles finalement ils n'avaient pas leur place. Donc moi je voyais mes enfants qui étaient enfermés dans un environnement où ils étaient en souffrance. Moi j'avais été dans un environnement comme ça où j'avais été en souffrance. Alors c'est pas du fait que c'est pas à cause de l'environnement, hein, mais c'était moi dans cet environnement, c'était juste que j'étais pas arrivée dans l'environnement qui était bon pour moi. Et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même énormément de gens, et de plus en plus, qui finalement faisaient ce constat à un moment de leur vie, et c'est pas pour rien qu'on voit énormément de burn-out. Parce que, ben, à un moment donné, on se rend compte que finalement, ce que je fais au quotidien, ce qu'on m'a donné comme recette du bonheur, finalement, ben, c'est peut-être pas vraiment ça le bonheur. Et que ben, le vrai bonheur, c'est juste de savoir ben, qui on est et où je dois être finalement pour donner du sens à ma vie, où je dois être pour pouvoir contribuer à quelque chose qui a du sens et trouver ma place aussi dans ce monde. Parce que je crois qu'on a tous quelque chose à faire là, ici-bas, là où on est. Et voilà. Et donc, effectivement, dans le coaching, c'est important au-delà de ce qu'on fait. C'est d'abord d'être et d'incarner finalement une forme de mission, quoi.
Oui, tout à fait. C'est vrai que par rapport à quand on est dans le coaching, comme ça, on cherche à accompagner les gens, mais aussi à les révéler. Et dans une interview que tu as fait, tu précisais ce qui est important, c'est que les gens fassent non pas appel à leurs compétences, et c'est souvent pour ça qu'on est formé, mais fassent appel plutôt à ses talents.
Ouais, alors on mélange souvent les deux, c'est vrai. Alors moi j'ai pas mal de gens, enfin ça arrive qu'il y ait des personnes qui m'appellent, qui me demandent qu'est-ce que je dois faire, j'hésite, est-ce que je fais du coaching ou un bilan de compétences. Et alors je dis, ben, en fait, tout dépend de là où on en est. Il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Hein. C'est une question de chemin, de qu'est-ce qu'on veut vraiment. Les compétences, ça se développe, ça s'acquiert. Et ça, comment on va faire tout ça ? Ben, en allant chercher ses talents. Et ses talents, c'est quoi ? Ben, c'est des choses qu'on a tous de façon innée. Et là, pour le coup, ben, ça peut être notre curiosité, ça peut être notre capacité d'apprentissage, ça peut être notre persévérance. Et si on ne connaît pas, si on n'a pas conscience qu'on a ces talents, en fait, eh ben, on va croire que c'est uniquement nos compétences par lesquelles on s'identifie, en fait. Alors qu'en fait, quand on apprend à se connaître, on prend conscience qu'il y a vraiment des choses qui sont nos points forts. Et que ce qui va faire notre différence, justement, avec des compétences égales, ça va être justement notre unicité. Et notre unicité, ben, c'est qui on est, quels sont mes points forts, quelles sont mes valeurs, quelle est ma personnalité, mon fonctionnement, etc. Et compétences égales, et ben, notamment dans le cadre d'une recherche d'emploi, quelqu'un qui va être à compétences égales, et ben, ça va être qu'est-ce qui ressort, qu'est-ce que je vois aussi de... Qu'est-ce qu'est la personne? Qu'est-ce qu'elle dégage? Et si on n'est pas capable de savoir bah, qui on est, c'est compliqué d'être à l'aise aussi, et on va se planquer derrière ses compétences.
Oui, tout à fait. Et ça me fait penser justement à une vidéo que tu as titrée « Pourquoi votre mal-être peut devenir un cadeau de la vie ?»
Ouais, bah oui, oui. Alors tu sais, c'est le fameux cadeau caché. Alors c'est vrai que dans le développement personnel, on parle souvent de ça, c'est que derrière tout ce qu'on peut traverser de compliqué, de difficile en l'existence, en fait, il y a un cadeau caché. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu décides d'en faire ? Soit, effectivement, tu subis ce qui arrive et ça te pèse et voilà, et tu traînes ça, si tu veux, toute ta vie et tu te victimises avec ça, quoi. Ou à un moment donné, tu te dis, bon, qu'est-ce que j'ai à apprendre de ce qui se passe, quoi ? Est-ce que c'est pas finalement une opportunité pour revoir peut-être des fonctionnements, pour revoir des façons de faire que j'ai, pour revoir comment ça se fait que je reproduise toujours les mêmes erreurs ? À un moment donné, c'est avoir l'humilité aussi de remettre ses propres schémas en cause et de se dire, bah, peut-être aussi de mon fonctionnement, bah, quand j'ai tendance à faire ça, et je vois bien que c'est pas bon pour moi parce qu'à chaque fois, ça me met dans des situations qui sont pas justes ou pas correctes. Donc oui, c'est ce fameux cadeau caché, c'est qu'à chaque fois qu'il se passe un truc pas chouette, bah, qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça ? bah ouais, je suis déçue, on m'a dit non, etc. Bah, est-ce que je ne dois pas apprendre à gérer la déception? Est-ce que je ne dois pas travailler mon estime de soi? Est-ce que finalement, bah, je ne dois pas me rendre compte que je suis entourée de gens qui sont toxiques pour moi? Il faut que j'apprenne peut-être à voir les choses différemment, peut-être à m'affirmer plus. Il y a tout un tas de messages, en fait, et de leçons qu'on peut tirer des choses difficiles qu'on traverse. Et c'est ça, ces fameux cadeaux cachés.
Ouais, tout à fait, oui. Tout à fait. Et puis, c'est vrai qu'avec ces périodes de confinement, là où finalement, ben, beaucoup d'activités ou de loisirs ou de possibilités à l'extérieur ben, sont aujourd'hui rendues très limitées, on va dire. Donc, c'est vrai qu'on a tendance ben, finalement à se retrouver ben, face à soi-même ou au sein d'un cercle familial assez restreint. Et ça nous amène tous à se réinterroger et à réinterroger aussi cette société dans laquelle on vit, les enjeux environnementaux aussi.
Complètement.
Aujourd'hui, il n'y a plus de déni, tout le monde en a pris conscience. Et on en parlait, je me souviens, quand on a préparé, justement, de ce... Est-ce qu'on n'est pas amené, justement, à... On parle de changement de récit ou de changement de paradigme.
Oui, c'est ça. Ouais. Moi, aujourd'hui, en tout cas, les gens que je côtoie, qui je suis moi de plus en plus, enfin plus on y va, moi ça fait longtemps que j'en suis persuadée, que je vois bien qu'il y a des choses qui sont vraiment en train de bouger, hein, même d'un point de vue vraiment énergétique, hein, il y a des choses assez, assez fortes qui se font. Il y a trop de signes à un moment donné pour les ignorer, quoi. Je crois que le monde est devenu fou. Je regardais un super documentaire de l'INRES. D'ailleurs, je vous encourage à aller voir INRES TV. C'est vraiment assez, assez fabuleux ce qu'ils font. Ils ont fait des documentaires qui s'appellent « Du chaos à l'harmonie » où ils expliquent un petit peu finalement cette bascule, que le monde il est en train de basculer dans autre chose là aujourd'hui. Et on parlait effectivement par rapport à la nature, etc. On parlait des animaux et... Et c'est vrai que pendant longtemps, on disait l'homme, il a cru que c'était lui, qu'il était au-dessus, quoi. Et donc, sauf qu'en fait, nous, en tant qu'hommes, on va avoir besoin des vers de terre, on va avoir besoin, tu vois, de toutes ces petites choses qui nous paraissent anodines, tu vois, les moustiques, ils ont tous un rôle à jouer, on a tous besoin d'eux, parce que s'ils disparaissent, l'homme, en fait, il disparaît, quoi. Mais à l'inverse, si l'homme disparaît, en fait, l'espèce animale, en fait, ça changera rien pour elle, quoi. Donc, en fait, c'est vraiment un rappel aussi à une humilité, à un moment donné, à reprendre nous notre juste place. C'est aussi en termes d'humilité, de dire on n'est pas les maîtres du monde et on a essayé, en fait on a saboté notre propre monde parce qu'on a cru que notre cerveau nous donnait le droit de maîtriser tout le reste, quoi. Et là on est effectivement dans l'ego. Et c'est pour ça que mon métier prend aussi tout son sens, parce que moi je veux accompagner les gens à sortir de cet ego, à sortir de ce pouvoir. À se dire qu'ils n'ont plus besoin de parader, d'avoir, de se valoriser pour exister. Ils ont juste besoin d'apprendre à être qui ils sont pleinement, tout simplement, et à apprécier qui ils sont et à se montrer dans leur meilleur, sur leur meilleur jour avec leurs talents qui sont les leurs, quoi. Mmh,
tout à fait. Donc, c'est pour ça dont je parlais là tout à l'heure de raison d'être. On demande aux entreprises aujourd'hui de définir un petit peu leur raison d'être, mais peut-être que nous aussi... Est-ce qu'il ne faut pas qu'on s'interroge sur notre raison d'être aujourd'hui, à titre individuel, à titre collectif
Bah, je crois que c'est un cheminement qui est vraiment personnel et je crois qu'il n'y a pas d'injonction par rapport à ça. Moi, de toute façon, c'est ce que je dis toujours quand mes clients me disaient « Ah ouais, il faut que je fasse ça », mais je lui dis « Mais il ne faut rien ». C'est de quoi tu as envie, quoi, de quoi tu as besoin toi aujourd'hui, en fait. Et c'est vrai que... trouver sa raison d'être, je pense que le monde est bien fait, c'est toujours est-ce que tu es prêt aussi à entendre et à prendre finalement un peu cette responsabilité, parce que finalement c'est aussi une responsabilité à un moment donné de se dire, de se rendre compte, ça c'est un peu vertigineux à un moment donné, quand tu prends conscience que finalement tu as peut-être une forme de mission, c'est-à-dire un rôle à jouer sur cette terre. Alors ça peut paraître un peu présomptueux, mais en fait, le rôle, il est juste ramené à qui on est. C'est l'histoire du colibri, hein. C'est chacun fait sa part. Et moi, à mon niveau, je fais ma part dans ce que je fais parce que ça a du sens pour moi, parce que pour moi, aider les gens à se reconnecter à qui ils sont, aider les gens à devenir responsables de leur vie vraiment, aider les gens à améliorer leurs relations aux autres aussi, pour moi ça a du sens, parce que je me dis que si ça rend les gens plus heureux, ils vont impacter aussi autour d'eux et rendre les gens autour d'eux plus heureux, et ça fait une espèce, tu vois, d'effet domino. Mais toi, avec ce que tu fais, ce podcast-là, il y a quelque chose qui a du sens pour toi aussi. Donc, et tu sais pourquoi tu le fais. Et y a tout un tas de gens, et peu importe ce que tu fais. Tu vois, quelqu'un qui va être coiffeur, qui va vendre des maisons, si derrière, il dit, bah ouais, parce que moi, grâce à mon métier, ben, les gens, ils se trouvent plus beaux, ils gagnent en confiance, ou je les aide à créer un projet de vie, à se projeter dans l'avenir, à construire une famille, etc. Ça a du sens pour eux, ben, c'est génial, quoi. Donc, en fait, la raison d'être, c'est pas forcément un truc, tu vois, hyper mystique, etc. C'est juste de se dire, bah ouais, moi, ça me touche, ça a du sens pour moi au moment où je le fais, et j'ai l'impression que ouais, je contribue à quelque chose de plus grand qu'à un sens au sens large.
C'est vrai, tout à fait. Et ça revient justement à cette notion de responsabilité individuelle et de reprise en main de sa propre vie, finalement. Ça a un côté... Tout est possible, puisque ça dépend que de nous.
Ouais, mais ouais. Et alors, c'est vrai que quand on dit ça au début, même moi, hein, quand j'ai démarré, on disait, ouais, t'es créateur de tout et tout. Tu te dis, non, mais attends, ils exagèrent un petit peu quand même, quoi. Bah, en fait, si tu t'aperçois que t'es créateur de plein de choses, beaucoup plus qu'on ne pense, quoi.
Je pense aussi.
Et qu'il y a des choses, effectivement, il y a des choses qui arrivent sur lesquelles... En fait, il y a des choses qui vont arriver, t'as pas la main sur ce qu'elles arrivent. Mais en revanche, t'as toujours la main sur la façon dont tu décides de les vivre. Tu vois, on parlait du confinement tout à l'heure, mais voilà, donc... Donc, t'es pas créateur du Covid et de la situation, mais en revanche, t'es créateur de ce que tu décides d'en faire. Donc, est-ce que tu décides de subir? Est-ce que tu décides de regarder, tu vois, les infos en boucle en attendant que ça s'arrête? Est-ce que tu décides de râler à chaque fois qu'il faut mettre un masque? Ou alors, est-ce que tu dis, bah, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que ça m'ouvre comme opportunité, finalement? Moi, le premier confinement, je me suis dit, waouh, génial, je vais pouvoir aller à fond. Et j'ai jamais autant bossé que le premier confinement parce que j'ai eu du temps pour ça. Et vraiment, pour moi, ça a été une belle opportunité. Alors après, c'est vrai que c'est long et on est tous, je pense, on aimerait tous retrouver effectivement autre chose. Mais en même temps, c'est j'ai pas la main dessus. Donc, qu'est-ce que j'en fais? Et donc, je me ramène à mes trois clés, finalement, essentielles, c'est-à-dire mes pensées, mes actions, mes émotions, c'est les trois choses sur lesquelles j'ai la main, et le reste, c'est pas en mon pouvoir, quoi. Et quand on parle de lâcher prise, c'est ça. Et donc, prendre sa responsabilité, bah ouais, c'est être responsable de ses pensées, ses actions, ses émotions, en fait.
Ouais, tout à fait. Et justement, on sous-estime le potentiel. Notre potentiel, en fait, il est bien plus supérieur à celui que l'on pense.
Bah oui, parce qu'en fait, on dit aussi qu'on n'a que les limites qu'on se pose. Hein.
Oui.
Et en fait, c'est ça, c'est qu'en fait, on se pose tout un tas de limites. Hein. Parce qu'en fait, on a besoin, en fait, ces limites, forcément, c'est des croyances qu'on appelle des croyances limitantes, hein, qui sont vraiment profondément ancrées parfois. Alors parfois, c'est des croyances limitantes qui sont liées à notre éducation.
Voilà, à la société aussi.
Bien sûr, c'est le regard des autres, qu'est-ce qu'on va penser de moi, ça veut dire, dans ma famille éducationnelle, mais qu'est-ce que ma famille va penser de moi, parce que c'est un truc, on n'a jamais fait ça chez moi. Ça peut être aussi, il y a des notions de loyauté familiale aussi, Tu reproduis des schémas aussi, parce que tu ne t'autorises pas à un moment donné à te montrer, parce que tu viens d'une famille peut-être, c'est un podcast de femmes, donc tu vas voir des femmes qui se sont toujours empêchées d'eux parce que elles étaient, voilà, leur mère était femme au foyer, était toujours... Et là, d'un coup, toi, tu as envie de te révéler, et en même temps, tu dis, bah oui, mais ça veut dire que je vais être déloyale à toutes ces femmes-là qui sont avant moi, quoi. Donc, c'est des choses qui sont très inconscientes, bien sûr, mais qui sont ancrées. Et c'est vrai que quand ça monte à la conscience, puisque tu ne peux changer que ce qui vient à la conscience, quand ça vient à ta conscience, d'un coup, eh ben forcément, tu te dis, est-ce que j'ai envie de continuer avec ça? Est-ce que c'est bon pour moi? Ou est-ce que je décide d'aller outre et de lâcher? Et là, tu peux décider d'aller dans une autre dynamique. Et là, d'un coup, tu t'aperçois que beaucoup plus de choses sont possibles que tu ne crois, quoi.
Mais en même temps, tu vas dans l'inconnu, et l'inconnu, ça fait peur.
Eh ben oui, l'inconnu, ça fait peur, mais ces fameuses... c'est quand on parle de cette fameuse zone de confort, en fait.
Oui.
Hein. Bon, moi, j'aime pas trop ce terme-là, parce qu'effectivement, je trouve que, si c'est une zone de confort, il n'y a pas de raison d'en sortir. Donc moi, j'aime bien utiliser le terme de zone du connu, en fait, parce que, voilà, c'est juste ce que tu connais, quoi. Si tu navigues dans quelque chose que tu connais. Mais effectivement, derrière ça, tu sais pas ce qui va se passer. Et en même temps, c'est vrai pour tout. Enfin, quand tu comprends que finalement ça n'est que un apprentissage que tu vas devoir faire de quelque chose de différent, d'une attitude que tu vas changer et d'une posture que tu vas t'autoriser à avoir, d'un projet que tu vas lancer, tu crées des expériences, en fait. Donc déjà, quand tu vois ça comme des expériences, tu dis, je tente une expérience et puis je vais voir ce qui se passe. Ouais. Puis j'ai presque envie de dire, tu vas pas mourir, quoi. Tu vois, à un moment donné, mais on se focalise sur là, ça me fait peur. Bah oui, ça fait peur. Parce que de toute façon, tout ce qui est en dehors de cette fameuse zone-là, ça fait peur, puisque tu sais pas. Mais est-ce que c'est tes peurs qui guident ta vie? ou est-ce que c'est la vibration que tu as d'aller outre ces peurs? Donc la question c'est ça, c'est qu'est-ce que tu as envie de faire? Donc voilà, et après il appartient à chacun de faire ce choix, quoi.
Et puis après on peut commencer par des petits niveaux.
Ben c'est ça,
voilà,
bien
qui
sûr.
Mettent pas trop d'enjeux derrière.
C'est ça,
et
c'est
qui la... peuvent donner confiance et puis ben voilà pour se lancer parfois peut-être vers d'autres projets plus engageants.
Exactement.
C'est chose que tu as faite d'ailleurs.
Ouais, ben c'est comme ça que j'ai procédé. Et puis je crois que c'est vraiment un pas à la fois, quoi. Mmh. Et puis alors c'est un pas à la fois déjà. Hein. Et même si c'est un mini pas, mais c'est pas grave. Mais dans la bonne direction surtout, quoi, justement. Et puis au rythme qui est nôtre aussi. Et ça, c'est vraiment important parce que parfois, on veut griller des étapes, quoi, parce qu'on veut aller trop vite et puis on veut aller trop haut. Et en fait, on se brûle les ailes parce que, justement, on se met des objectifs qui sont trop hauts, quoi. Et ou alors, on veut aller trop vite. Donc, c'est important aussi de respecter son rythme et de se dire toujours, ça, c'est aussi quelque chose que je transmets, c'est avec ce qui t'est donné là aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux faire ? Et moi, c'est vrai que quand j'étais dans cette situation, j'étais seule avec mes enfants, où j'avais mon job salarié, j'avais effectivement cette auto-entreprise. J'étais aussi dans une association, engagée dans une association, un réseau féminin. Bah, c'est vrai que j'avais beaucoup de choses à gérer, et en même temps, je faisais avec ce que j'avais, quoi. Donc c'est réussir aussi à remettre ses objectifs en perspective et se dire c'est pas parce que j'ai tout ça que je vais pas avancer, mais c'est qu'est-ce que je peux faire déjà avec le temps que j'ai, l'énergie que j'ai, l'argent que j'ai aussi. Et j'ai démarré même en termes d'investissement financier, au départ, j'ai démarré en faisant un peu de formation comme ça, et puis au fur et à mesure, comme j'avais des retours, je me dis à chaque fois ça m'a permis de réinvestir un petit peu plus, tu vois. Et je crois que tous ceux qui, de toute façon, dans leur vie, ont réussi, ils sont tous passés par ça, par des petits pas, et dans tous les domaines, en fait.
Mmh, tout à fait, et c'est un cheminement.
C'est ça, c'est un chemin, exactement. Ouais. Mmh.
Et justement, là, on va revenir à ce que tu disais là tout à l'heure. Tu parlais, ce sont nos pensées, nos émotions.
Et nos actions.
Et nos actions, voilà. Ouais. Est-ce que tu peux développer ?
Ouais, en fait, ces trois aspects-là, si tu veux, c'est-à-dire qu'il y a une interaction permanente entre tes pensées, tes actions et tes émotions. Et donc, en fait, tu as toujours la possibilité de faire évoluer les trois en passant par, justement, l'un des trois. Alors, je m'explique. Imagine, tu te réveilles le matin, tu sais, t'as pas super bien dormi, et puis, donc déjà, t'es pas de super humeur. Donc, tu vois, là, ton état, quand je parle des émotions, là, je parle vraiment de l'état interne, ce qu'on appelle l'état émotionnel. Donc là, ton état émotionnel, il est un petit peu bas, il est pas terrible, quoi. Et puis, tu commences si tu restes dans cet état émotionnel, il va se passer quoi ? Tu vas commencer à ruminer des pensées. Tes pensées vont te dire, oh là là, j'ai mal dormi, sale journée, machin. Tu vas commencer, tu vois, à ruminer ce genre de pensées. Tu vas te servir un café, tu vas être maladroit, tu vas t'en mettre à côté. Tu vas aller dans ta voiture, tu as commencé à engueuler tous les conducteurs, voilà. Tu arrives au bureau, tu vas voir la somme de mails, tu vas commencer à râler sur tes... Donc voilà, tu vois un petit peu que les trois sont conditionnés. Si en conscience, à un moment donné, tu prends conscience et tu te dis, tiens, là, voilà, je me le suis levé, je suis pas en super humeur. Là, c'est est-ce que j'ai envie de rester dans cet état d'esprit-là, si tu veux, parce que je vois que ça va conditionner tout le reste, ou est-ce qu'à un moment donné, je décide de faire varier ça ? Et là, tu vas pouvoir dire, de quoi j'aurais besoin peut-être pour justement changer d'état interne. Alors là, d'un coup, ça va peut-être être, pour changer mon état interne, un truc qui me fait du bien le matin, tu vois, c'est je vais me prendre une bonne douche chaude, tu vois. Et ça, je sais que ça me détend, ça me délasse et ça me met dans un état d'esprit agréable. Ou alors, je vais m'écouter une musique, tu vois, qui me fait du bien. Ou alors, je vais me griller une petite tartine et je vais me mettre du beurre. Enfin, peu importe. Mais quelque chose qui va te ramener à quelque chose de positif. Et là, ton état interne, il va changer. Si ton état interne change, d'un coup, tes pensées, elles vont changer aussi. Et forcément, derrière, tu vas pouvoir prendre le volant en étant peut-être plus détendu. Tu vas arriver au bureau et puis là, tu vas décider de sourire à tes collègues, etc. Donc ça, c'est une... Mais tu peux aussi décider, au niveau de tes pensées, de observer tes pensées, de te dire « Ah, ça y est, je commence à ruminer des pensées qui ne sont pas terribles. Bon, allez, je décide en conscience de changer mes pensées. Bon, arrête de dire que tu vas foirer ta journée. Non, je vais avoir une bonne journée. Tiens, d'ailleurs, je suis en train de penser que j'ai un truc sympa qui va se passer. » Et là, tu vas commencer à modifier tes pensées, d'accord ? Ou alors, tu vas utiliser ton corps pour pouvoir inverser le truc. Tu vas commencer à te dire « Bon, allez, je vais me mettre en énergie, je vais sauter un petit peu, je vais me dynamiser, ou alors je vais faire du yoga, ou je vais faire du stretching ou quelque chose, mais je vais utiliser mon corps, tu vois, pour... » Et en fait, à chaque fois, le fait de mettre en mouvement un de ces trois axes, en fait, il y a un impact sur les trois autres. Donc, ça marche dans les deux sens. Mais maintenant, à chaque fois, c'est de se poser la question, c'est dans quel sens j'ai envie que ça fonctionne, quoi. Est-ce que je m'entraîne dans ce cercle vicieux où je vais m'enterrer, ou alors, à l'inverse, tu vois, je vais dans ce cercle vertueux où je vais me nourrir.
Ouais, en effet, c'est très juste. C'est très, très, très juste. Et les exemples que tu as donnés sont...
On les a tous vécus, je crois.
Ouais, je pense. Complètement, ouais. On va revenir justement à ton activité. Ça fait 2 ans maintenant que tu exerces...
À plein temps.
Ouais, ton activité de coaching. Tu as même développé un petit peu ton modèle économique, mais à travers une offre variée, hein, puisque tu es, comme je disais, tu es coach, mais tu es formatrice et tu es aussi conférencière. Et je crois que tu te fais surtout plaisir.
En fait, c'est ça. Et je crois que, tu sais, quand justement... j'ai commencé en 2015 mon activité, et c'est vrai qu'il m'a fallu, presque 3 ans, un peu plus de 3 ans, pour pouvoir réussir à vraiment faire une rupture conventionnelle et quitter, parce que j'avais besoin de gagner cette confiance aussi dans le fait que je pouvais gagner ma vie. Mais en fait, au-delà de la confiance par rapport à ma posture en tant que coach, j'avais pas de vision. C'est-à-dire que je ne me retrouvais pas, moi, dans les modèles que je voyais autour de moi, des coachs. Je ne me retrouvais pas. C'est-à-dire que je n'avais pas de jugement par rapport à ça, mais moi, il y a quelque chose qui ne me parlait pas. Et en fait, il a fallu que j'ai croisé la route, en fait, d'un mentor canadien qui fait une formation en ligne sur Internet qui est assez exceptionnelle. Et c'est vrai que quand je suis rentrée dans cette formation-là, d'un coup, c'est pareil. Il y a eu une vibration intérieure et je me suis dit, waouh, ça y est, ça me ressemble. Et en fait... c'était une formation déjà, il y a eu beaucoup de développement personnel puisque cet entrepreneur est coach aussi, donc on a beaucoup travaillé au niveau personnel. Et puis il y avait surtout le fait que je pouvais finalement, ça s'appelle l'académie zéro limite, donc c'est vraiment, il n'y a pas de limite. Et c'est qu'en fait finalement, par internet, je me suis dit, grâce à internet, je peux finalement tout faire. C'est-à-dire que je peux m'autoriser à faire des choses qui me plaisent. Donc c'est vrai que moi je suis dans une formation de communication, donc moi ce que j'aime la créativité, j'aime écrire, j'aime m'exprimer, j'aime les mots... Et donc, j'avais envie, je me dis, comment je peux utiliser finalement tout ce que j'aime faire, tout ce en quoi je suis bonne, et puis, finalement, en faire un métier. Et effectivement, je me suis autorisée à faire un modèle qui me ressemble. Et puis après, c'est pareil, au milieu de mes accompagnements, j'ai aussi fait des choix en termes de niveau d'accompagnement. C'est-à-dire que là, j'ai un format d'accompagnement qui est un peu différent de ce qui existe, de ce qu'on voit de façon un peu plus peut-être classique. Mais parce que ça me ressemble, parce que moi je sais que je suis quelqu'un qui m'engage à fond, que quand j'accompagne des gens, je me donne à 110%, et que je ne me voyais pas recevoir des gens en cabinet comme ça, à la queue leu-leu, parce que ça ne me ressemblait pas. Parce que je regarde pas l'heure, ce qui m'intéresse, c'est que les gens, ils se transforment, quoi. Mais pour que je puisse faire ça, il fallait que je travaille aussi sur le côté financier, parce que pour... Je voulais continuer aussi à donner de façon gratuite, mais pour autant, il faut quand même que je gagne ma vie. Donc, il a fallu que je travaille tout là-dessus, me dire comment je peux équilibrer ce côté, je donne gratuitement parce que ça me plaît, que j'adore ça. Et en même temps, je crée quelque chose, des offres aussi qui me permettent de gagner ma vie aussi, pour que je puisse continuer, à donner gratuitement. Donc en fait, c'est trouver cet équilibre-là, quoi. Et puis à côté, saisir les opportunités de m'amuser, quoi, et me faire plaisir, et sans forcément d'ailleurs que ça soit payant, parce que je pense que de toute façon, quand tu donnes, à un moment donné tu reçois, donc quand tu as compris ça, si tu t'es plus dans le calcul, quoi.
Et tout à fait. Et par rapport à ton activité, donc tu interviens autant auprès du coup de particuliers au travers de coaching individuel, mais aussi auprès des entreprises.
Ouais. Alors j'ai une activité effectivement. Alors d'un côté, j'accompagne des particuliers sur des problématiques vraiment. C'est beaucoup de gens qui justement, je fais de la spéléologie intérieure. C'est des gens qui ont perdu leur boussole, qui savent vraiment plus trop où aller. Il y en a pas mal qui sont soit à deux doigts du burn-out, soit ils sortent d'un, ou ils sont dedans, ou ils en sortent, et qui ont vraiment besoin de retrouver le cap, de ce qu'ils veulent faire. Donc moi, c'est vraiment là, mon cœur d'expertise, il est là. Et puis à côté, j'accompagne aussi dans les entreprises, donc soit en groupe ou soit en individuel aussi, des entrepreneurs, pareil, là, sur des thématiques qui sont plus larges. C'est d'ailleurs leur posture, eux, d'entrepreneurs, mais en fait, c'est quand même au départ des hommes ou des femmes qui sont au sein d'une entreprise et qui finalement ont construit souvent une entreprise à partir des modèles sociétaux. Et là, on en revient au même. Moi, je les accompagne finalement à se réinvestir, eux d'ailleurs, au sein de leur entreprise, c'est-à-dire qui ils sont, quelles valeurs sont fondamentales dans leur entreprise, qu'est-ce qu'ils ont envie de voir résonner, et puis qu'est-ce qu'ils doivent s'autoriser à être, qui doivent devenir en fait pour pouvoir justement avoir l'entreprise qui leur ressemble en fait. Et ça, c'est hyper intéressant, quoi. Et puis là, j'accompagne depuis peu aussi des entrepreneurs sur des sessions de mastermind aussi. Donc c'est un mastermind qui dure à peu près 1 an, où en présentiel, on va vraiment les accompagner en groupe à développer leur entreprise, alors pas que sur des domaines du développement personnel et de la posture, mais aussi sur d'autres aspects donc de l'entrepreneuriat.
D'accord, donc là c'est des groupes, tu dis mastermind.
Ouais, c'est groupe, un mastermind entrepreneur. Alors c'est plus spécifiquement dédié justement aux entrepreneurs solo, les freelances, les professions libérales ou les TPE. Et l'objectif, parce qu'on est quand même souvent tout seul et c'est pas évident de se remettre en cause et de trouver des solutions. Et c'est vrai que le fait de se regrouper ensemble, on travaille en intelligence collective et ça permet à chacun en fait de s'y retrouver beaucoup plus. D'avoir des solutions très rapides, d'avoir des points de vue extérieurs, d'ouvrir des horizons et puis de faire grandir aussi sa posture, quoi.
D'accord. Et c'est des rencontres qui sont mensuelles, hebdomadaires?
C'est étalé, c'est tout un programme en fait. Donc c'est étalé sur une année. Et donc tu as 6 sessions présentielles, donc il y en a une tous les 2 mois. Et dans l'intervalle, après, il y a des webconférences et il y a aussi des masterminds virtuels, puisqu'en fait ce concept il existe dans la France entière. Et donc le but c'est de rencontrer aussi les gens qui sont dans la France entière et avec qui tu vas pouvoir avoir cette intelligence collective, mais avec des gens qui ne sont pas forcément sur le territoire.
D'accord, très bien, intéressant. Alors, on va arriver à tes projets. Quels sont justement, on a déjà vu que tu as fait beaucoup de choses. Quels sont tes projets là pour cette année 2021, mais également pour les années à venir?
Écoute, le premier projet là, c'est donc ce mastermind dont je te parlais là, que je suis en train de lancer. Donc là, je suis en plein dedans. Un projet là, qui me tient à cœur, dont on a parlé tout à l'heure, là, on vient de lancer avec une amie coach aussi et institutrice une plateforme en ligne pour les enseignants. C'est une plateforme l'objectif c'est d'accompagner les enseignants en fait, à faire grandir leur être, leur savoir-être et leur faire et leur savoir-faire dans un environnement qui n'est pas simple, où beaucoup sont perdus, où beaucoup sont un peu surmenés, où ils ont du mal à équilibrer leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Et nous, vraiment, notre objectif, c'est de les aider vraiment à se retrouver eux là-dedans, à se reconnecter vraiment à qui ils sont et à s'autoriser aussi à être plus dans leur essence, si tu veux, au sein de leur métier d'enseignant. Et puis, par écho, forcément, d'aider nos enfants. Et notamment, moi, je suis concernée avec des enfants qui ont des profils un petit peu atypiques, les aider aussi à augmenter leurs connaissances sur tout un tas de choses, et notamment tous ces profils différents pour pouvoir mieux accompagner nos enfants. Et donc, c'est les adultes de demain, nos enfants. Donc, c'est important d'avoir un monde qui soit construit avec des bonnes personnes. Les autres projets, c'est de continuer effectivement tout ça. C'est continuer à accompagner au mieux un maximum de personnes à aller dans cette connaissance de soi, quoi. Et j'ai envie de dire, quel que soit le moyen, parce que moi je suis un élément d'un grand système, quoi. Et donc moi j'ai la chance d'être entourée de plein de gens qui sont dans la même dynamique, avec qui j'apprends énormément et avec qui on est vraiment dans des belles valeurs. Et puis je fais partie aussi d'un écosystème qui s'appelle Unatera, qui est un écosystème où il y a maintenant à peu près 130 personnes. Et donc il y a des coachs, mais pas que. Il y a majoritairement des coachs, mais pas que. Et là, on éprouve aussi autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, on travaille autour de projets inspirants, on soutient des initiatives, Et en fait, on se fait grandir. Donc là, on est en train de mettre en place un système de gouvernance. Donc on travaille sur justement tous ces aspects-là. C'est comment vivre ensemble, comment créer un écosystème, quelque chose d'assez organique en fait, qui fonctionne ensemble de façon très naturelle, un peu comme la nature en fait. Et donc, c'est un écosystème qui est justement très, très inspiré du vivant. Donc voilà, et ça, c'est assez passionnant. Ouais.
Sûrement. Et pour terminer, quels seraient tes conseils pour nos auditeurs, ou aurais-tu un livre ou un support à nous conseiller?
Alors, des supports, il y en a plein, oui. Et tout dépend du sujet, effectivement. Donc, moi, je ne vais pas être très originale. Je pense que un des bouquins par lesquels il faut démarrer quand on veut vraiment en savoir plus sur le développement personnel, quand on veut entamer peut-être un changement, moi, je trouve que les 4 accords Toltec, c'est vraiment une base idéal. Après, effectivement, il y a plein de... Quand on veut aller sur la communication, par exemple, il y a le livre de Marshall Rosenberg qui s'appelle... À chaque fois, J'intervertis, mais je crois que c'est les mots sont des murs ou ils sont des fenêtres ou l'inverse. Je ne sais plus dans quel sens ça se dit, je ne l'ai plus en tête. Et là, on est sur de la communication non violente, donc ça c'est pareil, hein, c'est intéressant parce qu'on va creuser tout ça. Après, il y a aussi des livres qui sont des livres autobiographiques. Je crois qu'il y en a un dont je t'ai recommandé, que tu as lu, hein, qui s'appelle La Fabrique des miracles, que j'ai lu récemment et que j'ai trouvé, que j'ai trouvé absolument génial.
Et pour terminer, quels seraient en deux, trois mots tes conseils ou le mot de la fin ?
Le mot de la fin, je crois que la vie, elle est trop courte, en fait. Et que si on veut se poser les bonnes questions, en fait, c'est de s'interroger. C'est quand je serai arrivée à la fin de ma vie, que j'aurai envie de la quitter, finalement, de quoi j'ai envie de me souvenir et quel regard j'ai envie de porter sur moi. Quand moi, j'étais dans ce moment difficile, en fait. À chaque fois, j'avais une chanson qui me tournait en tête. Tu sais, c'est la chanson de Palmas qui disait « C'est marcher sur le sable » et qui dit « Je n'ai qu'une seule, une seule vie ». Et ça tournait en boucle, en fait. Et tous les jours, je me disais « C'est pas possible, quoi. J'ai qu'une vie, je peux pas la gâcher à faire quelque chose que j'aime pas ». Et vraiment, je me projetais et je me dis « J'avais pas envie de garder d'avoir le regard sur moi de quelqu'un qui avait pas osé, en fait, qui avait pas fait quelque chose qui vivrait vraiment pour elle ». Et voilà, donc si je dois avoir un mot de la fin, c'est posez-vous cette question, effectivement, quand vous serez prêt à quitter cette vie, quel regard vous avez envie de porter sur votre vie, quoi.
Très bien. Eh bien, un grand merci, Soisig, pour
merci
cet échange.
Merci à toi, Marie-Cécile.
Passionnant, j'ai pas vu le temps passer. Tu es pleinement toi-même et tu défends des valeurs pleines de sens. Et un grand merci pour ta belle énergie, Soisig.
Merci, Marie-Cécile.
Si vous avez aimé cet épisode, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts. Cela permettra à d'autres de le découvrir. Vous pouvez aussi vous abonner sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Podcast Addict et n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur Facebook, Instagram ou LinkedIn. À bientôt pour le prochain épisode. Portez-vous bien et canavo !